Depuis 2012, Marcel Dugas consacre ses recherches historiques sur l'équipe de baseball, les Royaux de Montréal. Et on pourrait dire que c'est un peu les ancêtres des mini-expos. Et pour en discuter, on va aller le rejoindre parce qu'il publie ces jours-ci un livre intitulé « Jackie Robinson, un été à Montréal » aux éditions Urtubise. Monsieur Dugas, bonjour.
Bonjour.
Donc, Monsieur Dugas, racontez-moi un peu, là, pour ceux et celles qui ne savent pas qui est Jackie Robinson et qui sont les Royaux de Montréal, parce que ça remonte à il y a quelques années, puis on est quelques-uns qu'on n'était pas au monde. Mettez-nous juste dans le contexte historique de votre œuvre.
Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jackie Robinson a révolutionné le monde du baseball, sinon le monde du sport nord-américain en général. Okay. Parce qu'avant lui, il y avait une ségrégation raciale très, très stricte dans le monde du baseball. Seulement les Blancs pouvaient jouer dans les ligues majeures et dans toutes les ligues qui permettaient d'accéder aux ligues majeures. Puis les Noirs, ben c'est pas notre problème. Arrangez-vous comme vous voulez, ça nous regarde pas.
Fait qu'il y avait des ligues pour des Noirs, juste des Noirs, puis il y avait des ligues pour des Blancs, juste des Blancs. C'était séparé en fonction
absolument
de la couleur de ta peau.
Il y avait, depuis les années 1880, il y avait aucun mélange. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'une équipe de la Ligue nationale, les Dodgers de Brooklyn, engage un Afro-Américain, finalement, qui s'appelle Jackie Robinson. Et en une saison, on va détruire tous les arguments qui étaient utilisés depuis 60 ans pour justifier la ségrégation raciale dans le baseball. Et ça s'est passé à Montréal. Et les Montréalais, les Québécois en général, ont pas seulement été des spectateurs de cette saison-là qui a vraiment révolutionné, comme je le disais, le monde du sport. Ils ont été des participants. Ils ont vraiment accepté Jackie Robinson tout de suite. Il est devenu, dès le premier match, il est le joueur le plus applaudi chez les Royaux. Ils l'ont adoré tout au long de la saison. Ils ont vraiment contribué à la réussite de cette expérience-là de l'intégration du baseball.
Ça, c'est, je ne sais pas si c'est un mythe ou c'est une réalité, mais ça fait que souvent les gens pensent qu'au Québec, on est une société beaucoup plus tolérante parce que justement, on était les précurseurs au niveau du baseball pour avoir un noir sur un terrain. Parce que ça a fait à l'époque beaucoup jaser. Est-ce que on peut encore dire ça ou si c'est un peu un mythe?
Bien, en fait, pour ce qui est du baseball, oui, effectivement, je pense que les Québécois en général étaient en avance sur plusieurs autres territoires en Amérique du Nord. Parce que non seulement, en plus de Jackie Robinson, il y a deux autres Afro-Américains qui ont joué avec les Royaux brièvement, qui ont passé la majeure partie de la saison à Trois-Rivières. Et là non plus, il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. Ils ont joué des matchs à Québec. D'ailleurs, il y a une équipe entièrement, dans une ligue entièrement formée de joueurs noirs qui va être prêtée à la province de Québec. Ils vont venir jouer à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Montréal. Il était même question que pour 1947, cette ligue-là, qui s'appelait la United States Negro League, s'internationalise et ajoute une équipe à Toronto, une équipe à Montréal et une équipe à Québec.
À Québec
donc,
aussi.
Vraiment, on était à l'avant-garde, là.
OK. Je veux savoir, est-ce que le fait, parce que ça a fait beaucoup jaser, évidemment, partout en Amérique du Nord, le fait qu'à Montréal, un joueur noir joue à ce niveau-là avec les Blancs. Est-ce que ça a été comme la voie qui a fait que Montréal a été vu un peu comme une ville de baseball, même dans la tête de plusieurs Américains, puis ça a permis que quelques années plus tard, ou même quelques décennies plus tard, les expos apparaissent à Montréal?
Ça a définitivement contribué à mettre Montréal sur la map. Ça, c'est vrai, parce que au moment où il signe son contrat avec les Royaux, tous les journaux à peu près en Amérique du Nord parlent de ça. Le Sporting News, qui était la bible du baseball, consacre plusieurs pages à la signature de ce joueur-là. Normalement, c'était pas important, là, un joueur qui signait pour un club de niveau 3A, c'est le niveau juste en dessous des ligues majeures. Et là, tout le monde ne parle que de ça. Les Royaux étaient devenus l'équipe officielle de la communauté noire aux États-Unis, dans les journaux de la communauté noire.
Ah oui, parce que tous les Noirs de partout appuyaient Montréal, parce qu'il y avait un Noir qui jouait dans cette équipe-là. Fait que même s'il était dans d'autres villes, quand il se promenait à l'étranger, ça veut dire que les Noirs remplissaient les stades puis allaient applaudir les Montréal.
Il y a certains matchs que les Royaux ont disputés sur la route où il y a plusieurs milliers d'Afro-Américains dans les estrades qui ne regardent évidemment qu'un seul joueur, qui sont pas très préoccupés par Montréal, là, mais qui regardent un seul joueur, qui encouragent un seul joueur. Donc vraiment, les Royaux étaient sur toutes les lèvres à ce moment-là. Et ça, c'est effectivement, pendant les années qui ont suivi, les Royaux ont connu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de grands joueurs qui ont joué, notamment le grand Roberto Clemente, dont lui aussi, on veut retirer son uniforme dans toutes les ligues majeures, comme on l'a fait pour Jackie Robinson. Donc, les succès des Royaux ont vraiment mis la puce à l'oreille, si vous voulez, des manias du baseball, et ça a amené en bonne partie à la naissance des Expos, effectivement.
Mais là, on parle évidemment juste des côtés positifs de Robinson, mais il y a eu des pages plus sombres aussi parce que l'accueil n'a pas été unanime. Et quand il se promenait autant sur la route, puis même à Montréal, il y a eu quand même des gens qui ont résisté à son arrivée dans le baseball professionnel, là.
Il y a eu tout à fait de la résistance. En fait, avant le début de la saison, les Royaux, comme la plupart des équipes de baseball, ont été s'entraîner en Floride, au camp d'entraînement, comme on l'appelle. Et au deuxième jour du pré-camp d'entraînement, Robinson doit fuir la ville, littéralement, là, où a lieu le pré-camp d'entraînement, parce qu'on craint qu'il puisse être lynché par la population locale. Donc ça, c'est au deuxième jour du camp d'entraînement. Ça a commencé comme ça. Et il y avait plusieurs villes où il était relativement bien accueilli, pour un joueur adverse, évidemment. Mais il y a des endroits où ça a été extrêmement difficile, entre autres la dernière série de la saison qui a eu lieu dans le Kentucky. Là, on est dans le cœur des anciens États confédérés. Là, il a vraiment vécu l'enfer pendant cette série-là. Mais les Montréalais vraiment l'ont soutenu, et les Québécois l'ont soutenu vraiment du début à la fin de la saison. Quand la série revient à Montréal, ils vont huer tous les joueurs de l'équipe du Kentucky pour venger Jackie Robinson. Bref, ça a été une saison qui a été extrêmement difficile pour Jackie Robinson. C'était beaucoup d'obstacles, c'était beaucoup de pression. Il se retrouve au mois d'août, il est complètement en burn-out, diagnostiqué par un médecin, et malgré tout, il a réussi à continuer à jouer à un très haut niveau pendant un autre mois et demi après ça. J'ai aucune idée comment c'est humainement possible d'accomplir ce qu'il a accompli pendant cette saison-là.
En fait, votre livre, ça se lit quasiment comme un livre d'histoire. Ceux qui veulent replonger dans le Québec des années 40, c'est fort instructif et c'est très édifiant le travail que vous avez fait. Ceux qui en veulent plus, ben procurez-vous l'ouvrage de Jackie Robinson, Un été à Montréal, aux éditions Urtubise. Marcel Dugas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ben, merci à vous.
Au revoir.
Le retour